Alors, encore une fois, bonjour à chacun. Est-ce qu'on peut juste remettre le refrain du dernier chant qu'on vient de chanter?
D'accord. Et la garde est affirmation très forte. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles. Et après, là, sois mon ange, sois mon âme. C'est comme si peut-être tu pourrais être mon ange, ma voile. Alors qu'on pourrait dire, tu es mon encre, et tu es ma balle, pas seulement soi, soi. J'espère que ce sera une toute petite remarque. Je pense que ça ne doit pas rimer, c'est pour ça que c'est comme ça, mais dans le fond c'est ça, tu es mon encre et tu es ma voile. Merci Christian. J'aimerais reprendre avec vous ce matin un thème que nous avons traité tout au début de l'année dans notre église, Sarrebourg, que nous avons intitulé « Il n'y a vraiment personne comme Jésus ». Alors, je pense qu'il est important que nous réalisions cela, qu'il n'y a vraiment personne comme Jésus. Important parce que nous basons notre foi sur lui. Mais ce qui est aussi très important, me semble-t-il, c'est que nous sachions pourquoi il n'y a vraiment personne comme lui. Et c'est ce que nous voudrions essayer de voir ensemble ce matin. Alors, face au temps qui passe, face aux incertitudes et aux questions liées à ce temps qui passe, concernant certainement le lendemain et les peurs, les questions que ce lendemain peut engendrer. Je crois que nous avons besoin d'autre chose que des belles paroles de nos politiques ou encore des flonflons de la fête qu'on mène de temps en temps. Ce sont des besoins réels qui s'expriment dans nos vies. Et ces besoins sont réels depuis, j'allais dire, la nuit des temps. C'est ce que a fait dire à un des psalmistes que j'aime beaucoup, quand il voyait ses besoins, ces montagnes de difficultés qui se dressaient devant lui, il a dit « Mais d'où me viendra le secours face à ces besoins ?» Et sans hésiter, il se dit à lui-même « Le secours me vient de l'Éternel. » Lui qui a créé les cieux et la terre. Et un autre psalmiste, peut-être le même, après tout, c'est pas dit, quand il a réalisé que le pardon de Dieu, il a dit ceci, que le Seigneur soit votre joie, vous ses fidèles. Émerveillez-vous, criez de joie, vous les hommes au cœur droit. Alors, je vous propose que nous aussi, ce matin, et dans le temps qui est devant nous, nous nous émerveillons à propos de qui est notre Dieu, de ce qu'il a fait pour nous, et notamment en Jésus, puisque nous avons dit qu'il n'y a vraiment personne comme lui. Alors je lirai deux textes essentiellement ce matin, des textes de l'apôtre Paul dans lesquels il a brossé un tableau assez saisissant et complet de Jésus-Christ et de son œuvre. Je ne lirai pas les textes d'une seule traite, mais je lirai morceau par morceau et nous essayerons de relever des qualificatifs concernant Jésus et son œuvre au fur et à mesure de la lecture. Je lirai dans le premier chapitre de Colossiens et dans le premier chapitre des Éphésiens. Aux Colossiens, à partir du verset 13. Le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés et pardonnés de nos péchés. Là, en une seule phrase, Paul en dit énormément à propos de Jésus-Christ. Alors ce sera un petit début pour asseoir notre affirmation quand nous avons dit qu'il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il est dit là que Jésus est le Fils bien-aimé du Père, qu'il est le roi, donc entièrement digne de notre profond respect, qu'en lui nous sommes rachetés et avons le pardon de nos péchés, que par lui nous avons été transportés du monde des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Pas seulement rachetés et pardonnés, mais aussi arrachés à la puissance de Satan et placés sous la domination et la protection de Jésus dans son royaume. Verset 15. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Ce verset nous rappelle celui du prologue de l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 16, où il est dit « Personne n'a jamais vu Dieu, puisqu'il est invisible. Mais le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. » Cette réalité-là a marqué l'apôtre Jean. C'est une réalité qui nous aussi doit nous émerveiller. Christ est l'image visible du Dieu invisible. Bien sûr, aucun de nous n'a vu le Père, pas même les disciples qui ont vu Jésus, mais ils ont réalisé que Jésus, par son œuvre, par sa personne, par son vécu, a révélé comment est le Père. C'est aussi ce qui a fait écrire au même apôtre Jean dans sa première épître, au chapitre 1, verset 14, « Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Nous nous souvenons que la gloire de Dieu, c'est son amour, c'est sa bonté. Au travers du Fils, au travers de Jésus-Christ, les apôtres ont eu la révélation du Dieu d'amour. Avec, comme nous l'avons dit, plénitude de grâce et de vérité. Jésus est venu nous révéler le Dieu d'amour. Il y a vraiment de quoi dire, il n'y a personne comme Jésus. Poursuivons la lecture, la deuxième partie du verset 15. Jésus est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé, car c'est par lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Puissance spirituelle, domination, autorité, pouvoir, Dieu a tout créé par lui et pour lui. Encore une fois, nous sommes renvoyés au prologue de Jean, où il est dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui, en Christ, dans la parole, résidait la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Réaliser cela, est-ce qu'on y arrive? Ça dépasse largement notre compréhension. Que Christ, en Christ, toutes choses ont été créées. Mais pouvons-nous comprendre, ou mieux comprendre, comment ce Jésus, qui est la vie, a pu mourir? de cette mort horrible de la croix et par cette mort obtenir le pardon de nos péchés. Nous ne pouvons que croire. Et je dirais même, nous avons l'inouïe possibilité de simplement croire ces choses et en être nous-mêmes vivifiés, comme ce fut le cas pour les disciples. Par contre, si nous croyons vraiment cela, si nous croyons que toutes choses ont été créées en Christ, nous n'aurons pas non plus de mal à accepter cette parole de 1 Corinthiens 5, 17, où il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » C'est-à-dire que celui par qui toutes choses ont été créées, celui-là, il a le pouvoir de faire de nous des créatures nouvelles, dont il fait des citoyens de son royaume. Déjà ici-bas. Voilà encore un autre aspect de l'œuvre de Jésus à propos de laquelle nous avons de quoi nous émerveiller. Mais comme nous l'avons dit au début, étant donné ces montagnes en tout genre qui se dressent bien souvent devant nous, nous avons parfois bien du mal à réaliser que nous sommes des créatures nouvelles, citoyennes du royaume des cieux. Et c'est dans ces situations-là que nous réalisons, d'une manière toute pratique, que nous marchons par la foi et non par la vue. Tout en sachant que la foi ne se base pas sur des imaginations, sur quelque chose que nous pourrions nous représenter ou nous imaginer, ou sur ce que nous ressentons, mais sur les affirmations de la parole de Dieu, telles que celles, par exemple, que nous sommes en train de voir ensemble ce matin. Nous en arrivons au verset 18 de notre chapitre 1er de Colossiens. Il est la tête du corps qui est l'Église. Et c'est en lui que commence la vie nouvelle. Il est significatif que cette affirmation est la suite de l'exposé où nous est dit que toutes choses ont été créées en et par Christ. Tout a été créé par lui, aussi l'Église, dont il est automatiquement le chef ou la tête, puisque ça a été lui qui l'a créé. Puisque c'est lui qui a créé l'Église, elle lui appartient. Nous lui appartenons et à aucun autre. Tout cela, c'est son œuvre à lui. Et si nous avons l'étonnante possibilité d'être membres de son corps, c'est parce que lui a fait de nous, par son pouvoir de créer, de nouvelles créatures. Et c'est en lui que pour nous a commencé la vie nouvelle. Si donc nous faisons partie de son corps, c'est qu'en d'autres mots, on pourrait dire que nous sommes unis à lui. Faisons partie de son corps, nous sommes unis à lui. Et nous recevons de lui la vie. Encore une fois, on peut dire, par rapport à ces réalités-là, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Et ce n'est pas la suite de notre texte qui va nous contredire. Deuxième partie du verset 18. Il est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang, car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils, et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. J'ai l'impression qu'il a dans ces quelques versets comme le summum de l'œuvre et de la personne de Jésus. Réconcilié par Jésus, l'ensemble de ce qu'il y a dans l'univers entier, soit sur la terre, soit dans les cieux. Et cela nous rappelle les paroles de Jésus lui-même en Matthieu 28, verset 18, où il dit lui-même, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et dans la suite, nous lisons à quoi ça sert, ce pouvoir qui lui a été donné, à réconcilier l'univers entier avec lui. Par la mort de son Fils sur la croix, Dieu a établi la paix avec tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Et Actes 3, verset 21, précise encore cela en parlant de la restauration, non seulement la réconciliation, mais la restauration de l'univers entier, où il est dit, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré. Nous nous souvenons que notre terre, mais aussi l'univers, a subi et subit aujourd'hui encore les conséquences du péché. Et cet univers entier, par l'œuvre de Christ, nous avons la promesse qu'il sera restauré. Donc selon ces passages, le projet de Dieu en Jésus-Christ va bien au-delà du pardon des péchés et de la réconciliation pour les êtres humains qui acceptent ce message. Le projet de Dieu en Jésus-Christ, c'est la réconciliation et la restauration de l'univers entier par lui dans les cieux et sur la terre. Cela aussi, c'est quelque chose dont nous ne pouvons pas imaginer toute la portée. À la rigueur, nous pouvons comprendre qu'il y a de quoi restaurer des choses sur notre terre, mais dans les cieux, dans l'univers entier. Cela dépasse notre compréhension et nous laisse perplexes. Mais aussi, si nous essayons de réaliser cela, nous pouvons entrevoir l'immensité de l'œuvre de Jésus par sa mort à la croix et sa résurrection. Et je dirais que c'est certainement là la raison la plus grande pour laquelle nous pouvons dire qu'il n'y a vraiment personne comme Jésus. Et nous-mêmes, nous pouvons déjà maintenant bénéficier des prémices de cette réconciliation et de cette restauration. Notamment par le rétablissement, au moins partiel, de la communion avec notre Créateur. C'est en vertu du rétablissement de cette communion que la parole de Dieu nous invite à nous approcher du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. C'est parce que Jésus a réalisé cette réconciliation, cette restauration, que nous avons la possibilité de nous approcher de Dieu à chaque instant. Nous savons que dans l'ancienne alliance, il n'y avait que les prêtres qui pouvaient s'approcher de Dieu en prenant bien des précautions. Mais nous avons, par l'œuvre de Jésus-Christ, la grâce de pouvoir nous approcher de lui à chaque instant, n'importe où, à tout moment. Est-ce que nous réalisons quelle est l'immensité de la différence que nous avons la possibilité de vivre par rapport depuis la venue de Jésus, par rapport à ce que ceux qui vivaient avant, même les personnes pieuses qui qui vivaient avant l'arrivée de Jésus n'avaient pas cette possibilité comme nous de s'approcher librement du Dieu de grâce. Par la restauration, par la réconciliation, nous sommes replacés dans la situation qui était celle de nos premiers parents avant le péché. Eux qui bénéficiaient à chaque instant de la communion avec Dieu, mais aussi de la certitude de la vie éternelle avec Dieu. Par l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes réinstallés dans cette réalité-là. Une autre conséquence très importante de l'œuvre de réconciliation opérée par Jésus, et cela aussi nous concerne très directement pendant notre pèlerinage terrestre, nous le trouvons en 2 Corinthiens 5 à partir du verset 18. Tout ce dont nous venons de parler est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et alors, il nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leur faute, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous voilà donc directement impliqués et participants de cette œuvre de réconciliation. Après avoir été nous-mêmes réconciliés par la mort de Jésus à la croix, Dieu nous confie l'honneur d'être, comme il est dit dans la suite du même passage, ambassadeurs au nom de Christ. Comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes, c'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu, car il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5. Comme nous l'avons dit, ceci est en fait un autre aspect de cette restauration opérée par Jésus-Christ. Nous nous souvenons que l'être humain, au départ, a été créé en image de Dieu. Et pour refléter cette image, et nous réalisons bien que toute l'histoire de l'humanité nous rapporte que l'être humain, depuis la chute, reflète bien autre chose que cette image. Or, maintenant, suite à l'œuvre de Jésus-Christ, nous pouvons lire en Colossiens 3:10, par l'œuvre de Jésus-Christ, vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur. Voici donc la suite de cette œuvre de réconciliation. L'homme nouveau, créé, réconcilié avec Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ, peut à nouveau être l'image de son Créateur et être son ambassadeur. Et je dirais que c'est cela qui donne ou redonne tout son sens à notre vie terrestre. Son vrai sens que le Créateur avait prévu dès le début. Je prendrai maintenant quelques extraits du premier chapitre de la lettre aux Éphésiens, un peu pêle-mêle. Nous avons vu que le projet de Dieu en Jésus-Christ, c'est la réconciliation et la restauration de l'univers entier, tant sur la terre que dans les cieux. Et Éphésiens 1, verset 10, apporte un complément intéressant à ce projet. Selon ce plan, est-il dit là, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. Et cela, c'est la conséquence directe et automatique de cette restauration opérée par l'œuvre à la croix. Alors cela peut nous sembler quelque chose qui est très lointain, qui nous concerne à peine. Certes, c'est lointain. Ça concerne un avenir lointain. Mais cet avenir lointain, c'est aussi notre avenir. Avenir à propos duquel Jésus nous a dit ceci: Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Jean 17, verset 24. Alors, ne vous paraît-il pas important de savoir que pour cet avenir, certes lointain, cet avenir qui nous est réservé, que là, dans cet avenir, tout, sans réserve aucune, sera placé sous l'autorité de Christ, de notre Sauveur, qui est tout-puissant, mais aussi qui est aimant et juste. Ok, mais alors plus proche de nous, plus proche de notre quotidien. Alors souvenons-nous de cette parole qui est liée à cela que Jésus lui-même a dit: tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Non seulement dans cet avenir lointain, mais aujourd'hui, dans notre quotidien de tous les jours, dès maintenant, et précisément jusque dans cet avenir lointain. Et une autre réalité à propos de Jésus, qui est là pour nous accompagner et nous fortifier dans notre quotidien ici-bas de tous les jours, c'est celle qui nous est présentée en Hébreux 4, versets 14 et les suivants, où il nous est dit que nous avons en Jésus-Christ un souverain sacrificateur, c'est-à-dire quelqu'un vers lequel nous pouvons aller à chaque instant, qui compatit à nos faiblesses, qui nous comprend, qui connaît nos besoins et qui intercède pour nous. Dans ce même passage, il nous a dit, puisqu'il en est ainsi, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Encore quelques versets dans Colossiens, ou Éphésiens, pardon. Éphésiens 1, verset 13. En Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. C'est aussi en Christ que vous avez cru et que vous avez obtenu l'Esprit Saint qu'il avait promis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Le fait d'avoir obtenu le Saint-Esprit après avoir été pardonné de nos péchés doit contribuer à la gloire de Dieu. Non pas à notre gloire, mais à la gloire de Dieu. Célébrer la gloire de Dieu. Voilà l'objectif qui nous est fixé lorsque Dieu nous donne, pardonne nos péchés et nous donne son Saint-Esprit. Cela nous amène à un dernier passage et à la conclusion. Versets 5 et 6 d'Éphésiens 1. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ, toujours Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée par son Fils bien-aimé, encore son Fils bien-aimé. Peut-être que nous pourrions faire justement de cette dernière phrase un mot d'ordre pour nous, que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils. Comment est-ce que nous pouvons réaliser cela dans notre vécu de tous les jours? Nous revenons là aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 10, que nous marchions d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire entièrement, portant comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, en progressant dans la connaissance de Dieu. Si nous voulons adopter cela comme programme pour notre vécu de tous les jours, il faut, et je dis bien il faut, que nous nous souvenions qu'il n'y a personne comme Jésus. Lui qui est venu nous révéler le Père, lui par qui nous avons le pardon de nos péchés et sommes devenus citoyens du royaume des dieux, lui à qui tout pouvoir a été donné sur le ciel, dans le ciel et sur la terre, lui qui est notre souverain sacrificateur, qui intercède pour nous et nous comprend, peut compatir à nos besoins. Lui qui a quitté la gloire de son ciel pour venir habiter parmi nous et nous réconcilier avec Dieu. Lui qui est digne de notre plus profond respect, mais aussi de tout notre amour. Lui qui, tout en nous ayant dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », nous offre la possibilité d'être unis à lui comme le sarment est uni au cep, de manière à pouvoir, jour après jour, puiser en lui la force et tout ce dont nous avons besoin pour mener justement à bien ce programme que nous nous fixons. Veillons, tout en ne cherchant pas à réaliser cela par nos propres moyens, à néanmoins faire tous nos efforts pour mettre toute notre volonté en œuvre pour marcher d'une manière digne du Seigneur.